Chapitre 2. L'orage pendant la nuit a trempé le parc. Mais la pluie s'évapore et le soleil est si brillant sur les feuillages qu'il fatigue la vue. Clara Delémeuse se promène dans l'allée aux noisettes. Il y a des coques à terre vidées par les écureuils. C'est une de ces matinées fraîches et limpides qui annoncent la canicule. Clara attend que le jardinier ait fini de batter le petit âne. C'est fait. Alors elle cueille une gaule verte et, d'un bond de pierre, saute sur la bête qu'elle dirige vers la grille. Elle prend le sentier des bois de Noirieux. Des gouttes glacées des néfliers pleuvent sur elle. L'âne trotte. Elle est toute secouée et, de temps en temps, retient son large chapeau de paille prêt à tomber. La voici sur la lisière moussue où veillent les colchiques. Dans les haies brillent des toiles d'araignées. On entend le gloussement des ruisseaux encore gorgés de l'orage nocturne. Des pies jacassent, un jet crie. Mais au milieu des bois, c'est un silence que rien ne trouble, à peine le bruissement des hautes fougères froissées par les flancs du petit âne. C'est un recueillement de fraîcheur, qui va durer jusqu'au soir, même aux heures torrides où les maïs crépitent. Au pied d'un châtaignier, sur une éclaircie de lumière et d'émeraude, il y a des gentianes. Leurs cloches, sombrement bleues, tante Clara Delémeuse qui arrête sa monture en descend et les cueille pour les allier aux reines Marguerite et aux narcisses de son chapeau des champs orné de rubans blancs à filet paille. Elle s'assied auprès de l'arbre et, tressant les fleurs, songe avec tristesse à la fin des vacances, à la rentrée, à la grande cour des récréations d'octobre, où les feuilles dures des platanes sont agitées par le vent aigre et froid. Jamais elle ne s'est bien résignée au pensionnat. Et c'est encore plus affreux les jours où sa mère lui rend visite au parloir. Elle préférerait, tant son regret est amer aux heures de séparation, que Madame Delémeuse ne lui donnât point ses joies trop brèves, empoisonnées toujours par l'attente du départ. Lorsque la cloche sonne et qu'il faut se quitter, après une demi-heure, c'est le cœur gonflé d'angoisse qu'elle emporte à son pupitre près de la petite vierge de métal dressée sur un autel de livres, les pâtisseries que lui envoie Madame d'Étanges. Elle n'y peut jamais goûter le soir même et encore le lendemain, lui laisse-t-elle dans la bouche un goût de larmes, une odeur morose qu'elle a définie intérieurement le parfum de la séparation. « Oh, mais suis-je donc sotte, se dit-elle, de songer d'avance à tout cela ?» Et elle considère un escargot qui vient de s'abattre à ses pieds. Il est temps qu'elle rentre, surtout si elle veut revenir par la route royale. Elle se lève et, remontée sur son âne, reprend sa route à travers bois. Le trot de l'âne rythme ses pensées qui, tout en ce moment, se concentrent sur la mémoire de l'oncle Joachim et de sa fiancée. Clara Delémeuse songe à cette mystérieuse lourde. Toc, 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 font les sabots du petit âne. Oh, que je voudrais voir les colonies de l'or! Et elle se récite cette strophe d'une poésie d'Anaïs Segalas parue au magasin des demoiselles. De peur qu'un maringouin ne touche à ton visage, tes nègres viennent déplier, la moustiquaire en gaz et sous le blanc nuage, on voit la déesse briller. Dans l'habitation, maîtresse étincelante, tout un peuple noir suit tes pas. Ton trône est un amas, ô reine nonchalante, et ta couronne et ta madra. Mais elle trouve ces vers moins beaux que ceux que compose Roger Fauchereuse, un jeune homme de leurs amis. Clara Delébeuse se retrouve à la grille du parc au moment où sa mère et M. Dastin se promènent dans la grande allée. Bon, la maman de Clara est charmante. Elle semble une aquarelle tirée des fleurs abîmées. Un chapeau de grosse paille cousu de Suisse, enguirlandé de reine marguerite, encadre ses lisses bandeaux châtains, ses yeux brillants et ses joues fraîches. Elle porte un peignoir de mousseline blanche imprimé à pois roses et s'abrite sous une ombrelle verte. Clara Delébeuse met pied à terre, tend son front d'abord à sa mère, ensuite à leur vieille amie. « Avez-vous été bien loin, mon enfant ?» demande M. Dastin. « J'ai fait le tour du bois de Nourieux et je suis revenu par la route royale. C'est un grand tour, oh ! Que ne puis-je vous accompagner, ma chérie ? J'ai encore la passion des promenades matinales et des bois, mais ne puis donner cours. Si je vous accompagnais à cheval, j'en serais réduit à un seul éperon et à une seule jambe. Triste cavalier, ma chère enfant, pour vous défendre. » Clara sourit et s'éloigne, tandis que Madame Delébeuse fait remarquer à M. Dastin la beauté des tournesols dont les fleurs lourdes apparaissent au-dessus de la haie du potager. « Bonjour, bonne maman. Que lisez-vous là, bonne maman ?»« Oh, je lis, mon enfant, une histoire très intéressante. » Et pour expliquer, bonne maman enlève ses lunettes. « Je lis, mon enfant, l'histoire très intéressante d'un navigateur presque inconnu. Cet homme, vraiment remarquable, a fait le tour du monde dans une petite barque. Il fut au pays des Hindous, dans une ville où les singes sont tout-puissants. On a pu se rendre maître de ces animaux, car ils pillent une espèce d'épine qu'ils soufflent à travers les yeux de leurs ennemis à l'aide d'un roseau. « Oh, mais quelle est jolie, bonne maman, votre histoire. Quelle est jolie, bonne maman. Bonne maman, le tiroir d'en bas de votre commode est resté ouvert. Vous avez oublié de refermer ? Non, mon enfant, c'est ton père qui est dans sa chambre, qui vient prendre ici, tout à l'heure, des papiers qui étaient sous clé. Il doit les remettre à M. Dastin. » « Et quels papiers, bonne maman ? « Oh, je crois des lettres de la Guadeloupe. Mais cela t'importe peu, mon enfant. Il est temps que tu ailles t'apprêter pour le déjeuner. » Clara Delébeuse sort de la chambre de Madame d'Étanges et monte l'escalier en fronçant les sourcils. « Mais pourquoi M. Dastin va-t-il garder les papiers de la Guadeloupe ? Les papiers de la Guadeloupe, ce sont les lettres du grand-oncle Joachim. Ces papiers doivent rester dans la famille. Pourquoi M. Dastin va-t-il les emporter ? Oh, je ne veux pas, moi, que M. Dastin les emporte. Est-ce qu'il va emporter aussi le joli portrait de Lourdes ? Une grande tristesse, une sourde rage gonfle le cœur de l'enfant. Elle n'a jamais lu ses correspondances. Elle n'en a vu que l'extérieur, parfois lorsque bonne maman ouvrait le tiroir d'en bas. Mais elle tient à ses papiers jaunis, parce que le portrait du grand-oncle Joachim est dans la chambre et que l'oncle Joachim était le fiancé de Laure. Mais elle ne peut pas empêcher petit père de remettre ses papiers à M. Dastin. Oh, elle est folle de songer à cela. Elle n'oserait jamais. Elle s'habille machinalement. Cette pensée que les lettres de l'oncle Joachim bien vous vont quitter à jamais, peut-être, la maison, la bouleverse autant qu'un scrupule religieux. Elle était, il y a 20 minutes, toute heureuse de sa promenade. Maintenant, sa joie est empoisonnée. L'idée fixe la taraude. Cependant, elle se recoiffe, met sa belle robe de mousseline, et avant de quitter sa chambre, considère longuement le portrait du grand-oncle et lui envoie un baiser. La porte de la chambre de petit-père est ouverte. Elle entre et le voit assis à sa table, en face de plusieurs liasses de lettres. Certaines de ces liasses sont déjà cachetées, d'autres ne sont encore que ficelées, d'autres sont libres. L'enfant se rend bien compte du travail auquel est occupé son père. Elle dissimule son émotion et dit: Bonjour, petit père, comment avez-vous passé la nuit? Bien, mon enfant. Oh, tu me trouves en train d'effectuer un rangement de papier d'affaires auquel je m'emploie depuis ce matin. Oh, heureusement que je vais en avoir terminé. J'ai plus qu'à poser quelques cachets de cire. Mais ce sera pour cet après-midi. Voici le premier coup du déjeuner. Clara descend. Maman, grand-mère et monsieur Dassin sont déjà au salon. Monsieur Delébeuze arrive bientôt. Et monsieur Dassin lui dit: Oh, mon cher ami, j'ai dû vous donner un mal de tous les diables en vous faisant ranger cette correspondance. Je vous en demande bien pardon. Mais pas du tout, mon cher Dastin. Votre réclamation est entièrement juste et je me reproche de n'avoir point songé de moi-même plus tôt à vous remettre ces lettres du pauvre Joachim. Vous les relirez avec émotion. Vous me les aviez confiés à la veille d'un voyage déjà ancien, et j'eus eu déjà à vous les rendre. Pendant le repas, Clara demeure silencieuse et dissimule son état d'âme. Elle fait semblant de manger, de crainte d'une observation qui la ferait éclater. Quand on ne la regarde pas, elle glisse à Robinson, qui est près d'elle, le contenu de son assiette. Et elle n'entend que vaguement ce qui se dit autour d'elle. On sert le café sur la terrasse à l'ombre du tulipier. Clara Delébreuse descend le perron où s'est posé le paon. Elle songe profondément. Ces lettres sont du grand-oncle Joachim. Donc elles pourraient être de à nous. Cependant, il est impossible de les garder puisque petit père veut les remettre à monsieur Dastin. Mais quand repart-il, monsieur Dastin? Elle fait lentement le tour du château, ses bras nus croisés derrière la taille. Sous un grand chapeau de paille, Clarisse à l'eau, la tête inclinée un peu vers le sol, laisse pendre en avant deux boucles à moitié dans l'ombre. Mais si je pouvais seulement, se dit-elle, conserver deux ou trois lettres de l'oncle Joachim, serait-il bien mal de les prendre dans les paquets non cachetés? Oui, sans doute, oui, ce serait un vol abominable dont je pourrais me confesser à la rentrée. Mais est-ce que l'on peut accomplir une mauvaise action et obtenir valablement l'absolution quand on s'est dit avant que l'on confesserait ensuite. Elle longe un vieux mur où s'épand un lierre, fait le tour du perron et revient sur ses pas. Taraudée par l'idée fixe, bouleversée par des scrupules et par l'envie de prendre les lettres. Clara, lui dit Madame Delébeuse, allez chercher votre Zéphyr en haut. Nous faisons cet après-midi une promenade en voiture. Vous pourriez vous enrhumer au retour. La jeune fille monte l'escalier. Elle passe devant la chambre de son père. La porte en est ouverte et les papiers sont toujours sur la table. Elle hésite, entre, s'en va, revient, ferme les yeux et les rouvre. Elle est seule. Rapidement, elle s'empare de deux lettres au hasard, chacune prise au milieu de deux paquets rangés, mais non ficelés, et s'enfuit dans sa chambre. Elle cache les lettres dans son sachet à la mouchoire, puis elle s'agenouille et demande pardon à Dieu. La promenade sur les coteaux est délicieuse, mais Clara Delébeuze n'en goûte point le charme, et l'après-midi lui paraît long. Elle se sent un peu plus à l'aise qu'au retour, bien que, durant un quart d'heure où son père est monté dans ses appartements, elle éprouve une crainte et une angoisse inexprimables. Enfin, sa peur se dissipe lorsque M. Delébeuze reparaît, une dizaine de liasses cachetées dans les mains, et disant « Tenez, mon cher Dastin, voici vos lettres en ordre. » Le dîner, la soirée, se passe monotone. C'est, comme la veille, une tiède soirée de l'été finissant, dont le silence n'est troublé, dans le salon, que par le bruit sec et léger des pièces de buis sur l'échiquier. À 10 heures, Clara Delébeuze rejoint sa chambre et va prendre dans le sachet les deux lettres qu'elle y a cachées. Elles sont écrites sur du papier rugueux et jaune, taché de poussière et d'humidité. L'une des adresses est très ornementée. Les suscriptions sont identiques. En caractère d'imprimerie, noir et rouge. Guadeloupe, par le Havre. Et en belle anglaise, par le navire La Rosina. À Monsieur Danstein, Auschwitz, par Balançoum en France. Basse-Pyrénées. Les plis sont alourdis par de la cire et des pains à cacheter. Clara Delébeuze est émue, ses oreilles bourdonnent un peu. Elle s'assied et déplie les missives de l'oncle Joachim, en examine les dates et lit rapidement. L'Artabonite, près de la Pointe-à-Pitre, le 10 juin 1805. L'empressement que vous mettez, mon cher Hector, à m'envoyer le plan de la petite maison de campagne où doit s'installer Laura me touche infiniment. Ce que vous m'en dites m'agrée en tout point. Surtout que la villa n'est point humide, ce qui est d'une grande importance pour une créole qui n'a jamais quitté les Antilles. La description qui accompagne votre plan est séduisante. Cet isolement, non loin du village où s'est passée ma jeunesse, conviendra à cette âme profondément blessée par la vie. Je crois du reste me souvenir de cette habitation. Ne l'appelions-nous pas la propriété fermée? Ne domine-t-elle pas un léger coteau, non loin de Norieux? N'y a-t-il pas tout auprès un vieux puits auprès duquel je me suis posté bien souvent devant mes chasses aux lièvres? Ce que vous me dites du jardin me plaît également. L'eau aime les belles fleurs, comme elle adore aussi les oiseaux, et vous seriez charmant d'en faire mettre quelques-uns en volière par les petits paysans de Balesson. Ils ne sont point comparables à nos oiseaux des tropiques, mais les bouvreuils, les chardonnerets, les linottes ont d'agréables chants. Mon ami est dû, dans une mélancolie profonde, quitter la Pointe-à-Pitre. Son angoisse redouble à l'idée que sa famille ne saura point si elle est morte ou vivante. Je lui ai promis que, pour rassurer ses parents, vous chargeriez un de vos amis fidèles de Londres de porter lui-même au navire qui fait le courrier des Antilles une lettre qu'elle vous fera tenir, destinée à rassurer les siens. Je ferai partir Laura secrètement pour Saint-Pierre de la Martinique, où elle s'embarquera le 30 courant à bord de l'aimable Elisa. Je vous prierai de l'aller quérir à Pouillac-sur-Gironde, où l'on fait escale en compagnie du docteur Campagnol. Il est toujours entendu que le rat passera aux yeux des curieux de Valensoune et de Grandrieu pour une malade qu'un de vos amis envoie à notre docteur pour faire une cure d'air. Vous voudrez, mon cher Hector, me faire tenir compte de tout ce que je vous dois et de tout ce que je pourrais vous devoir. Je vous prie d'accepter les quelques colis que je fais charger à votre intention à bord du Val d'Or qui emportera cette lettre. Je fais adresser le tout en douane de Bordeaux. Il se trouve parmi ces colis une partie du trousseau de Laura, du linge dont vous trouverez le détail s'y inclus, des robes, etc., et une guitare d'une grande valeur dont elle joue parfaitement. Le rhum qui est à votre adresse doit être transvasé goutte à goutte dans une deuxième barrique. Vous en perdrez ainsi beaucoup, mais ce qui en restera sera délicieux. Je ne suis assez vous remercier, mon cher Hector, de votre bonté fraternelle. Deuxième lettre. L'Artibonite, près la Pointe-à-Pitre, ce 7 décembre 1805. Je vous remercie, mon cher Hector, des nouveaux détails que vous me donnez sur la mort de la pauvre Laura. Je désirais connaître la vérité, si terrible qu'elle fût. Ma main est prise d'un tremblement à vous écrire ces lignes. Voici 10 nuits que je pleure amèrement en demandant pardon au Tout-Puissant de l'imprudence que j'ai commise et qui a précipité dans la tombe la plus aimable des êtres. Hélas, pourquoi suis-je resté sourd aux plaintes de cette chère amie et ne l'ai-je point accompagnée en France? Pourquoi la confiance en moi lui a-t-elle fait défaut? Malheureux que je suis, il ne me reste plus qu'à terminer dans les sanglots et le repentir une vie si cruelle qu'il me faut faire appel à toute ma religion pour ne point rater la fin. Vous me dites que vous n'aviez rien observé chez Laura, si ce n'est un peu plus de tristesse durant les derniers jours. Mais n'étions-nous pas habitués à cette mélancolie? Ici même, sous cette triste véranda d'où je vous écris, et où elle passa de longues soirées, je ne pus jamais lui donner un peu de joie. Le pauvre être fixait sur moi ses yeux douloureux et qui semblaient marqués par une mort prématurée. Son seul plaisir était que les marins lui apportent des colibris et des fleurs. Oh, me souvenir de ces choses fait battre mon cœur à coups précipités. Vous le faites s'arrêter comme s'il allait rejoindre dans la tombe celui de ma bien-aimée Laura. Mais où se procura-t-elle la fiole de laudanum que vous avez trouvée sur sa table de nuit? Délivre-t-on des remèdes aussi vénéneux sans ordonnance? Mais que dis-je? Si son dessein était arrêté, rien ne pouvait contrarier les lois du sort. Il fallait que ce terrible événement s'accomplît. Que ce douloureux secret demeure entre nous. Il ne faut pas que ce qui est un scandale aux yeux du monde retombe sur cette chère mémoire. Le docteur médecin Campagnol et vous savez seuls comment s'est déroulé ce triste drame. Je connais son cœur d'ami, il se taira, car s'il a des obligations envers les hommes, il en est de plus grandes envers Dieu, qui, j'en suis sûr, s'est montré compatissante envers elle. Si le châtiment d'une mort que réprouve le sentiment chrétien doit retomber sur le coupable, c'est moi seul qui en assume la responsabilité dans ce monde et dans l'autre. La pauvre enfant doutait de mon amour. Elle pensa que le triste fruit qu'elle portait en elle n'était au sujet d'inquiétude et d'ennui et que j'avais exilé en France, plutôt dans l'espoir égoïste de fuir cet événement que dans celui d'éviter le scandale de sa grossesse. Et pourquoi ai-je gardé ce secret sentiment paternel qui m'emplissait de joie? Pourquoi la nature m'en a-t-elle loué de ce tempérament inflexible qui cache pour un orgueil blâmable la plus douloureuse des sensibilités? Pourquoi n'ai-je pas ainsi expliqué à ma chère maîtresse que la seule crainte de voir sa réputation effleurée dans une cité où sa famille occupe une situation si considérable était la seule cause de son embarquement? Nul n'a soupçonné que la jeune fille avait gagné la France. Antonio Lopez, son frère, a fait effectuer des recherches, mais en vain. Un instinct secret l'avertit cependant que je devais être l'auteur de cette disparition. Et à cause du manque de preuves et de la position que j'occupe ici, il n'a pu me dénoncer à la justice. Alors il m'a cherché querelle, et vous connaissez la triste issue d'un duel où, tirant au hasard avec l'intention de même pas blesser mon adversaire, je l'ai défiguré et aveuglé. L'aura tout est telle que je dusse revenir en France et l'y épouser, comme je lui avais promis. Je ne sais. Mais chacune des questions que je me pose au sujet de son trépas m'emplit d'angoisse, d'épouvante et de remords. Je l'avais envoyée auprès de vous parce que je savais que là seulement elle trouverait une âme dévouée et faite pour la soutenir. Je veux, ô mon ami, si ce n'est déjà fait, que sa dépouille mortelle repose dans le cimetière où moi-même je dormirai un jour. Il faut que cette fiancée éternelle demeure auprès du tombeau d'Edelébeuze, dont elle eût porté le nom. Si mon frère Tristan n'était pas mort, je vous eusse prié de lui donner ce secret douloureux, car je désire que mes actions soient justiciables de ma famille. Je vous demande, au cas où moi-même je viendrais à mourir ici, qu'à l'époque de sa majorité, mon neveu Henri, aujourd'hui âgé de 3 ans, soit instruit de cette inhumation et des circonstances qui la déterminèrent. Et maintenant, reposez en paix, mane de ma bien-aimée Laura. Que la miséricorde toute-puissante de Dieu soit avec vous. Chère ombre, vous n'êtes que la victime de mon cœur terrible et passionné. Que je demeure seul sur la terre avec mes douleurs et mes remords, puisque vous n'avez même pas laissé à ma cruelle solitude le triste fruit de mes embrassements. Je vous étreins, mon cher Hector, le visage inondé de larmes. Joachim Delébeuze. En achevant la lecture de cette dernière lettre, la jeune fille sent sa vue s'obscurcir. Un bourdonnement emplit ses oreilles en même temps qu'une sueur froide l'inonde. Elle veut se lever, mais tombe évanouie au pied du fauteuil. Peu à peu, le bourdonnement reprend plus léger. Une sensation de bien-être l'envahit. Elle revient à elle et comprend. Elle est seule. Sur sa table à toilette, elle prend un morceau de sucre, l'imbibe d'eau de mélisse et l'avale. Elle s'était évanouie aussi une fois, quand elle était toute petite. Elle ramasse les lettres, les renferme dans le sachet, se couche et s'endort d'un sommeil sans rêve jusqu'au matin.